Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
À la une, l'arrivée d'ici peu du souverain pontife en RDC. Dans ce journal, l'ambiance à l'aéroport de Njili ainsi qu'au centre-ville de Kinshasa dans l'attente du pape et également des précisions de l'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa concernant l'accès au site de Ndolo où sera dite la messe de demain par le Saint-Père. Mécanisme de paix et de sécurité dans la région du Grand Lac. Structure basée à Goma. Les officiers militaires délégués du Rwanda n'y participent plus. Motif, les FARDC ont demandé leur rapatriement dans leur pays. L'armée congolaise évoque des raisons sécuritaires. Et puis, l'invité de ce midi, Jean Mabi Mulumba, directeur général du bureau central de coordination BCECO. Après son séjour en Mbujimayi, il explique le bien fondé du programme de développement de 145 territoires, programme méconnu aujourd'hui de la population du Kasaï oriental. Madame, Messieurs, bonjour. Le pape François, de son nom Georges Mario Bergoglio, arrive ce mardi en RDC par l'aéroport international de Njili à Kinshasa. L'avion qui le transporte doit atterrir autour de 15h locales. En attendant, retrouvons à l'aéroport international de Njili, Paul Matendo Mayamba. Paul, bonjour. Dites-nous, quelle est l'ambiance sur place?
Oui, Belinda Bosuma, l'ambiance commence déjà à se surchauffer ici à l'aéroport international d'Njili. La population s'amasse à petit feu sur le boulevard Lumumba, juste en face de l'aéroport. Plusieurs personnes sont venues avec des effigies du Saint-Père. Occasion pour certains de faire du business.
J'ai besoin de l'homme. Quand papa arrive, tout le monde, il faut... embrasser les drapeaux.
C'est ça que vous vendez, ces drapelets?
Oui.
Les partis politiques ne sont pas en reste. Les drapelets de certains regroupements politiques sont très visibles le long du boulevard. Certaines personnes interrogées sur place attendent du Saint-Père un message de paix pour la RDC attaquée par le Rwanda sous les labels du M23.
Nous attendons qu'il apporte au moins la paix dans notre pays à l'Est. Nous ne pouvons pas continuer à souffrir. Nous sommes chez nous.
Ce lundi, Monseigneur Carlos Ndaka, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa, a appelé le peuple congolais à réserver un accueil chaleureux au Saint-Père. De l'aéroport international de Njili, Paul Matendo, Radio Okapi.
Merci Paul, on vous retrouve dans nos prochaines éditions. Toujours dans l'attente du pape François cet après-midi à Kinshasa, rendons-nous à présent au centre-ville de la capitale pour retrouver Grace Amzati qui a fait le tour du centre-ville. Grace, bonjour, dites-nous où vous êtes précisément et quelle est l'ambiance sur place?
Bonjour Belinda Bosuma, bonjour à tous les auditeurs de Radio Kapi. Je me retrouve présentement au Palais du Peuple. Belinda, le centre-ville de Kinshasa ressemble à une journée fériée cet avant-midi sur les principales artères où nous sommes passés, notamment l'avenue Colonel Mongiba, le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe, l'avenue des Huileries, l'avenue de la Libération ex 24 novembre, l'avenue Sendoué, le boulevard Lumumba ainsi que le boulevard Triomphal, pour ne citer que celle-là. La circulation des véhicules est fluide. Même le mouvement des personnes n'est pas habituel sur plusieurs endroits d'Angouma, notamment à la place Victoire. Les agents de sécurité sont déployés dans des coins chauds de la ville. L'arrivée du pape reste le principal sujet des discussions, tant de transports en commun que dans la rue. Certains qui nous ont interrogés disent que plusieurs personnes ont préféré rester à la maison pour suivre l'événement à travers les médias afin d'éviter des incidents sécuritaires et d'autres accidents dus aux attroupements. D'autres estiment que la situation pourra changer dans l'après-midi à l'arrivée du pape car toute la foule est concentrée présentement à l'aéroport international de Njili, Belinda Bosuma.
Merci à vous, Grace Amzati. On vous retrouve également dans nos prochaines éditions. Vous savez, la RDC est prête à accueillir le souverain pontife, a déclaré le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais. Patrick Mouyaï a été l'invité de l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mardi, présentée par Kéline Kouté. Au sujet des préparatifs pour accueillir le pape, le porte-parole du gouvernement a précisé au cours de cette émission que le travail est fini à 90%. On écoute Patrick Mouyaï dans cet extrait proposé par Guy Matetsongo.
Au point où nous en sommes aujourd'hui, on a fini le travail à 90% et nous procédons au dernier réglage qui puisse permettre d'assurer que l'événement est bien couvert. Vous savez que c'est un événement énorme qui va appeler à peu près 1 million de compatriotes, tout au moins c'est le minimum, sur le site gigantesque d'Indolo. Donc il est question de regarder les aspects protocolaires, les aspects sécurité, les aspects des retransmissions, les aspects de communication, les aspects des circulations, les aspects d'hygiène avant d'aller dans les aspects du contenu, de la messe et tout ce qui aura comme activité prévue par l'Église catholique. Nous pensons avoir suffisamment bien travaillé avec l'Église et nous restons optimistes pour que tout puisse se dérouler suivant le plan convenu. Le podium aménagé est impressionnant, mais il est au cœur d'un site encore super impressionnant. Et donc, il y a des écrans qui sont aménagés durant le parcours de la piste qui permettra aux uns aux autres, quel que soit où ils seront, de voir en image et d'écouter la voix de Sa Sainteté le Pape François.
Et à propos de la messe de demain, 1er février, qui sera dite par le Saint-Père sur le site d'Indolo, Mgr Carlos Ndaka, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa, explique aux fidèles catholiques que l'accès sur ce site n'est pas conditionné par le port de Macaran. Il l'a dit lors de la conférence de presse conjointement animée par le ministre des Médias, Patrick Muyaya, et son collègue des Transports et Voies de Communication. Des précisions avec vous, Paul Matendo Mayamba.
Pour Mgr Carlos Ndaka, le port de Macaron n'est réservé qu'aux autorités politico-administratives et à une certaine catégorie de prestataires.
L'aéroport de Ndolo a été transformé en une chapelle ouverte, une grande église ouverte. Donc tout le monde est invité à venir ici. Il y a de la place pour tout le monde. Il est vrai qu'il y a eu des badges qui ont été distribués, mais ces badges ne concernent que des zones réservées. Il y a des zones réservées à des autorités politico-administratives, il y a des zones réservées à une catégorie de personnes comme des choristes.
Pour sa part, Jésus Noël Cheke, l'aménageur de ce site, les personnes à mobilité réduite ont également une place de choix.
Il y a non seulement l'espace aménagé pour les personnes à mobilité réduite qui obtiennent une place de choix vraiment à l'entrée même de l'espace et à côté de la tribune papale. C'est la première des tribunes de cet espace. Mais il y a également un accès, c'est l'accès numéro 2, totalement dédié aux personnes à mobilité réduite.
Parmi les personnalités attendues à cet événement, l'Église catholique de la RDC accueille dès ce mardi une délégation des évêques du Rwanda, a précisé Mgr Carlos Ndaka.
Dans le même cadre, plusieurs personnalités ainsi que des victimes des atrocités des groupes armés ont fait le déplacement de Kinshasa pour rencontrer le pape. Elles viennent plutôt de l'Ituri. Le principal message à lui adresser, l'Ituri a besoin que cessent les tueries ainsi que toutes les autres formes de violence pour que sa population puisse vaquer à ses occupations dans la quiétude. Toutes ces personnes souhaitent que le souverain pontife puisse porter haut la voix de l'Ituri au concert des nations pour que les tireurs de ficelles cessent de manipuler la jeunesse responsable des massacres qui se commettent dans cette province. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Cette équipe est composée d'une dizaine de personnes, parmi lesquelles on retrouve l'évêque du diocèse de Bounia, des prêtres, des membres du groupe des cinq communautés victimes des atrocités de l'Ituri, ainsi que des femmes et enfants mutilés dans les conflits armés de l'Ituri. Abbé Chrysanthe Ngabo, qui fait partie de la délégation, attend que le pape prie pour la paix en Ituri, qu'à travers sa visite, le peuple iturien puisse se réconcilier et arrêter les violences.
La délégation plaide pour la paix et de donner un cœur de réconciliation aux habitants de l'Ituri. L'Ituri est une province martyrisée pour des causes diverses et notre voix, c'est la demande de la paix pour les frères ituriens, même à tous ceux qui manipulent les conflits en Ituri.
Pour sa part, le président de G5 compte présenter au souverain pontife le tableau sombre de l'association sécurité de l'Ituri. Il attend que le chef de l'Église catholique puisse plaider le sort des Ituriens qui subissent les affres de la guerre auprès des autres chefs de l'État à travers le monde. Christian Outeki.
En tant que numéro un de la cité Ventouka, comme chef de l'État, aussi d'implorer à ses collègues, à ses homonymes présidents, un effort considérable pour que toutes les nations possibles du monde puissent conjuguer les efforts afin que les génocides de qui se trament à propos de l'Ituri puissent vraiment arriver au bout.
Selon le programme élaboré, c'est ce mercredi dit que l'Ituri sera reçu par la délégation papale. Bounia, Jean-Claude Loki dit les radios Capi.
Visite du pape à RDC. Nous avons l'espoir que le pape va s'impliquer pour que la paix revienne dans l'est de notre pays, et cela non seulement comme chef de l'Église catholique, mais aussi compte tenu de son poids dans le concert des nations. Ce sont les propos de Théo Ngwabidjekassi, gouverneur du Sud Kivu, pour qui la venue du pape en RDC ravive les flammes de l'espérance pour les populations de la partie est du pays. Théo Kassi Ngwabidje, dans ses propos recueillis par Cynthia Bachizi.
Et bon, d'abord, souhaiter la bienvenue au pape François. Une visite historique pour notre pays, puisque 40 ans après. Et je crois que la population du Sud Kivu aurait souhaité recevoir le pape, donc à l'est de notre pays, surtout la visite qui était prévue à Goma. Je crois pour plusieurs raisons ça a été reporté. Donc la population de l'est aurait souhaité voir le pape. Mais nous, nous saluons cette visite. Je crois que pour nous aujourd'hui, face à la situation de guerre qui traverse l'est de notre pays, la visite du pape, c'est une visite d'espoir. L'espoir pour le retour de la paix à l'est du pays, l'espoir pour le retour de la paix sur l'ensemble de la province d'ici. Voilà. C'est que je peux dire. Donc une visite d'espérance et nous espérons que par sa présence, le sang de l'amour et de l'espoir va surmonter ensemble les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui.
Direction le Nord Kivu. Les officiers militaires délégués du Rwanda dans différentes structures régionales basées à Goma ne participent plus à ces mécanismes de paix et de sécurité dans la région du Grand Lac. Cette décision a été annoncée hier dans un communiqué de l'état-major des FARDC. Ces mécanismes sont entre autres l'état-major de la force des États d'Afrique de l'Est, EAC, le mécanisme ad hoc de vérification des frontières et les mécanismes de vérification élargie à la MONUSCO, tous basés à Goma. Le point avec vous, si Famagourou.
Dans son communiqué rendu public ce 30 janvier, l'état-major des FARDC indique avoir demandé au commandant de la force régionale de l'EAC de rapatrier dans leur pays les officiers rwandais membres du quartier général de la force basée à Goma. L'armée congolaise évoque des raisons sécuritaires et précise que ces derniers ont déjà quitté les sols congolais et regagné le Rwanda. Le même communiqué, signé par le porte-parole des FARDC, le général-major Ekenge Bomusa Sylvain, ajoute que pour donner suite à cette décision, le Rwanda a rappelé tous les officiers faisant partie de tous les mécanismes régionaux basés en RDC. Pour rappel, le mécanisme conjoint de vérification élargie, MCVE, basé à Goma, a été installé en septembre 2012 et comprend les experts militaires des États membres de la CRGL avant d'être élargi à la MONUSCO. Son objectif est de surveiller et mener des enquêtes sur des incidents de sécurité dans la région des Grands Lacs. S'en est suivi l'installation du mécanisme ad hoc de vérification Rwanda-RDC mis en place en juillet 2022 dans le cadre du processus de paix sous la médiation du président angolais João Lourenço. Goma, Sifamagoro, Radio Okapi.
Pendant ce temps, nous apprenons la poursuite des combats ce mardi matin entre l'armée et les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda dans la région de Kichanga. D'après nos sources, les FARDC et les forces d'autodéfense ont lancé depuis hier des attaques sur les positions des rebelles à plusieurs endroits autour de la cité de Kichanga. Pour sa part, le porte-parole de l'armée, lui, indique que les FARDC ne font que répliquer aux attaques et tentatives des rebelles d'infiltrer leurs lignes. La situation reste tendue dans cette zone, mais aussi dans le Bouito, notamment Bukombo et Bambo, où on a signalé des détonations des armes lourdes ce matin. Le point avec Blaise Shindani Kambala.
Après d'intenses combats à l'arme lourde toute la journée d'hier lundi autour de Kichanga, les affrontements ont repris ce mardi matin après une brève interruption tard dans la nuit. Des témoignages recueillis ce matin à Kichanga indiquent que les combats se déroulent à Tebero, Rusinga et Ndondo, environ 2 kilomètres de Kichanga. Les rebelles sont toujours dans la cité de Kichanga et l'armée chercherait à les déloger des positions stratégiques, notamment la colline de Rusinga. Selon un acteur local, un grand nombre de la population reste réfugiée à la base des casques bleus de la MONUSCO depuis une semaine maintenant. Ces habitants n'arrivent même pas à se déplacer pour chercher à manger à cause de l'intensité des affrontements, déplore-t-il. En outre, 3 personnes blessées par balles perdues hier lundi continuent à être soignées par les casques bleus. Côté Rutshuru, en chefferie de Bouito, les sources locales rapportent que les détonations des armes lourdes se font entendre ce matin vers Lugarama et Moussaï, non loin de Kishishi. Ces affrontements opposeraient les rebelles au FARDC et forces d'autodéfense locales.
Kasaï Oriental, plusieurs victimes de l'incendie des marchandises au grand marché Bakwadianga dans la commune de Dibindi ont envahi hier la mairie de Mbujimayi. Ces personnes sinistrées sont venues demander au maire les mesures prises à leur endroit. Le maire de la ville de Mbujimayi a promis de répondre à leurs préoccupations dans un bref délai après sa rencontre avec l'autorité provinciale. Esther Dalafina, reportage.
Ces victimes de l'incendie des marchandises le week-end dernier au marché Bakwadianga ont rencontré le maire de la ville devant son bureau de travail. Certains réclament indemnisation de leurs marchandises.
Qu'est-ce que vous avez prévu pour nous? Nous avons toujours eu peur d'amener l'argent à la maison à cause de l'insécurité. Quel mal nous, les commerçants, avons fait contre vous. Nous payons les taxes chaque jour. Nous avons vu d'autres marchandises en train d'être volées en présence de la police.
D'autres, par contre, sollicitent auprès des autorités un geste pour la survie après ce désastre.
Que l'État congolais pense à nous, car maintenant, nous ne savons pas à quel sens se vouer. Je n'ai plus de capital. Comment subvenir aux besoins de la maison?
Maître Jean-Marie Lutumba, maire de la ville, leur a promis de répondre à leurs problèmes cette semaine.
Ne pensez pas que le maire est content de ce qui s'est passé. Il y a déjà une commission mise sur pied pour identifier les commerçants et savoir ce qui a été incendié. Le gouvernement provincial du Kasaï Oriental et la mairie vont réfléchir autour de cette question. D'ici jeudi, vous aurez la réponse. Soyez calme.
Rappelons que le marché Bakwadianga a été incendié dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Jusqu'alors, le feu reste d'origine inconnue d'après les autorités urbaines. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Burkina Faso, l'armée burkinabé annonce la mort d'au moins 13 personnes lors d'une attaque hier dans le nord du pays, rapporte l'AFP. Dans un communiqué, l'état-major annonce que des gendarmes et supplétifs de l'armée stationnés à Falangoutou, dans la région du Sahel, ont fait face dans l'après-midi de lundi à une attaque terroriste. Aux États-Unis, un peu plus de 2 ans après la mort brutale de George Floyd, les États-Unis refont la une pour une arrestation fatale. Le 7 janvier, Tyre Nichols, un afro-américain de 29 ans, a été lynché par plusieurs agents à Memphis. Sa mort 3 jours après a provoqué colère et sidération, d'autant plus qu'une vidéo montrant la violence de cette interpellation a été rendue publique.
L'invité.
Le programme de développement de 145 territoires est aujourd'hui méconnu de la population du Kasaï oriental. En cause, la non-vulgarisation de ce projet, selon des sources sur place, et le nombre insuffisant des outils pouvant faire la visibilité de ce grand chantier initié par le gouvernement congolais. Lors de son séjour à Mbujimayi, le directeur général du bureau central de coordination BCECO a expliqué le programme 145 territoires ainsi que le rôle que joue son institution dans ce grand projet. Jean Mabi Mulumba s'entretient à ce sujet avec Esther Ndalafina.
Jean Mabi Mulumba, bonjour. Pouvez-vous nous présenter le projet de développement local de 145 territoires et pourquoi BCECO l'exécute?
Oui, le programme de développement local 145 territoires, en fait, c'est un programme, comme vous le savez, initié par le chef de l'État, en réponse aux préoccupations exprimées par les différentes couches de nos populations qui se trouvent à l'arrière-pays. Mais en fait, quelles sont ces préoccupations? C'est d'abord l'accès à l'éducation, aux soins de santé de qualité, à l'emploi, c'est à l'eau potable, l'accès à l'électricité. Ce programme, d'un montant à peu près de 1,66 milliards, a pour objectif aussi de doter, notamment les territoires qui sont les parties du pays les plus délaissées, des infrastructures, notamment socio-économiques, mais également des bâtiments administratifs pour restaurer l'autorité de l'État. BCECO est une agence d'exécution qui a été créée par décret présidentiel de août 2001, comme étant une agence d'exécution pour pouvoir accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des projets de développement. Ce sont des projets multisectoriels. Juste un mot, BCECO a été mis en place aussi à l'initiative du gouvernement et des bailleurs, notamment la Banque mondiale. À la reprise de la coopération en 2001, il s'est posé un problème de capacité au niveau du gouvernement. Donc, ce qui fait que la crise que le pays avait connue dans les années 90 avait fait en sorte que toutes les capacités des RDC s'étaient exilées à l'étranger. Alors quand les bailleurs sont arrivés, il était question de mettre des ressources assez importantes pour la reconstruction du pays. C'est ainsi qu'on avait créé BCECO avec des experts pour pouvoir accompagner sur la mise en œuvre de ces financements ou de ces projets. Et le gouvernement lui-même par la suite a emboîté les pas en confiant BCECO justement la mise en œuvre de plusieurs projets d'infrastructures, notamment dans le secteur de l'éducation, la santé, mais également dans le secteur des routes aussi.
Quelles sont vos impressions après la visite des ouvrages dans les territoires de Lupatapata et Katanda?
D'entrée de jeu, je pourrais dire que j'ai une bonne impression. Je ne suis pas tellement surpris parce que c'est un projet conçu de près. Chaque semaine, mes services m'envoient les images de chaque chantier. Mais il était normal pour moi de venir justement sur terrain, confirmer les images qu'on m'envoie au jour le jour. je confirme, je suis satisfait, on ne peut pas dire à 100%, mais au moins je suis satisfait à 80%. Pourquoi ? Parce que je vois d'abord la qualité des ouvrages.
Combien d'ouvrages seront construits par territoire ?
D'abord, je vais préciser une chose. Je vais commencer par dire qu'on a deux bailleurs de fonds. Le fonds monétaire avec les allocations des tests et le gouvernement. Avec le fonds monétaire, pour raison de non-fongibilité des ressources, afin de permettre la traçabilité et l'e-reporting de l'utilisation des ressources, le gouvernement s'est arrangé le fonds que les allocations des tests financent les écoles, les centres de santé et les bâtiments administratifs pour restaurer l'autorité de l'État. Le BESECO a pour mission de financer 731 infrastructures réparties dans 9 provinces, disons dans 48 territoires qui sont répartis dans ces 9 provinces d'intervention, qui sont les Haut-Uele, l'Ituri, le Nord-Kivu, le Kasaï Central, les Kassai orientales, l'Omami, Okatanga, l'Oualaba et l'Omami. Mais sinon, nous avons toutes les informations que nous allons partager avec vous pour que vous puissiez aussi partager avec les populations qui sachent au moins au niveau de la province Kassai orientale qu'est-ce qui est attendu dans le cas du PDL.
Monsieur le DG, est-ce que les travaux prendront fin dans le délai ?
Je pense que, madame, à l'allure où vont les choses, au niveau du Kassai oriental, je n'ai pas d'inquiétude. Normalement, les travaux, on s'était dit, c'est 4 mois, mais on avait donné une marge de 2 mois pour tenir compte des aléas. Donc, si on regarde bien, nous allons commencer à recevoir les premiers ouvrages, je pense, fin mars. Donc, je pense que nous serons dans le délai. L'objectif pour nous est que toutes les infrastructures soient réceptionnées au plus tard le 30 juin de cette année, de sorte que la rentrée scolaire de septembre, les enfants puissent occuper toutes ces écoles.
Nous avons visité une école construite par PRIS, qui est le projet de réhabilitation et reconstruction des infrastructures scolaires dans le territoire de Katanda. Quelle est la différence entre ce projet-là et le PDL 145 territoires?
La différence se situe à plusieurs niveaux. D'abord, en termes d'infrastructures. Au niveau de PRIS, il était question de construire deux blocs de 3 classes, salles de classe chacun, un bâtiment administratif et un bloc sanitaire. Ça, c'est un. Deux, en dehors des deux blocs de 3 salles de classe chacun, au niveau du PDL 145 territoires, on a ajouté un bâtiment ou une salle polyvalente, à peu près de 120 mètres carrés. On a ajouté un deuxième bloc sanitaire, ce qui fait qu'on a un bloc sanitaire pour filles, un bloc sanitaire pour garçons. On a ajouté deux puits perdus. En plus, on a ajouté l'énergie solaire et les équipements, ce qu'il n'y avait pas dans. Alors, en termes de matériaux, au niveau de PDL 145 au territoire, les maçonneries sont faites avec des blocs ciment.
Merci beaucoup, M. Jean Mabimoulouma.
Merci.
Le DG du BESECO s'entretient avec Esther Ndalafina. C'est la fin de ce journal, coordonné par Élisée Chikota Chivueta, avec le concours de Blaise Chindani. Alain Goël a mis en onde. Merci de votre attention.